Philosophie politique, Saint-Jeudard, 24 avril 1985.
Dans une perspective diamétralement opposée à ce que nous voyons tout ce matin, nous allons entrer dans Machiavel. C'est vraiment l'antithèse de la sagesse. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que le philosophe aime toujours les monstres. Il ne les approuve pas, mais il les aime. Parce que c'est intéressant, c'est-à-dire rencontrer le cyclope. Un homme qui a un œil, c'est intéressant, sur le front, tu vois, qui lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Eh bien, Machiavel représente, d'un point de vue philosophique, c'est pas de la philosophie. C'est juste, c'est vraiment l'antithèse de la sagesse, dans ce qu'il a de plus extraordinaire. Je vous demande pas de vous plonger dans Machiavel, hein. Plus tard, si vous devez faire des cours sur Machiavel, vous y plongez dedans. Je me suis replongé dans Machiavel. J'avais vu Machiavel dans le temps, parce que j'avais à Fribourg quelqu'un qui faisait du droit et qui faisait un mémoire sur Machiavel, et alors qui philosophiquement venait me consulter régulièrement, et ça m'a obligé de me plonger dans Machiavel. C'est intéressant. C'est intéressant parce que justement c'est celui qui sépare la politique de la morale. L'autonomie est la priorité du politique. Et le politique est un art pour lui. Donc c'est Machiavel le premier qui a eu ce toupet invraisemblable, il faut être Machiavel pour faire ça. C'est un homme très curieux Machiavel, ça devait être quelqu'un d'assez curieux. Sûrement séduisant, mais en même temps complètement déroutant et provoquant sans doute une amertume terrible. Machiavel, donc, c'est celui qui donne l'autonomie, la priorité du politique sur le moral, alors que jusque-là, vous voyez, quand il s'agissait de Platon, quand il s'agissait d'Aristote, on voyait toujours, c'était l'équilibre entre l'éthique et la morale. Hein. Il ne faut jamais l'oublier, parce qu'au fond, c'est ce problème-là philosophique. Le problème philosophique consiste à comprendre. Vous voyez qu'ici, nous sommes en face de Platon. En gros, Platon. Mais Platon, c'est quand même un peu plus que ça. C'est que Platon met au-delà du politique la contemplation et en dessous du politique la justice. L'éthique. La justice qui naît avec la politique. Nous avons l'éthique individuelle qui est plongée dans l'éthique communautaire. L'éthique communautaire, c'est la politique. Et elle est dépassée par la contemplation. Donc, ce n'est pas entièrement vrai de politique éthique, c'est notre contemplation avant. Mais la contemplation est au-delà de tout. C'est quelque chose de vivant. C'est ce que je vivais avant d'être sur la terre. C'est ce que nous vivions ensemble, nous étions dans les cortèges des dieux, vous vous souvenez bien. C'est, nous étions là que des contemplatifs merveilleux, avec des ailes extraordinaires, merveilleuses. Puis là, on a fait une chute lamentable, on se retrouve sur la terre ici. Et sur la terre, on se trouve dans la caverne. On a fait cette chute dans le corps. Si on se conduit mal, on sera réincarné dans quelque chose. Alors on se retrouve avec des petits cochons. Vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, essayons d'éviter d'être avec les petits cochons, et puis essayons de retrouver notre style premier qui est divin et qui est contemplatif. Entre deux, nous sommes dans le point de vue politique, et le point de vue politique est commandé par la contemplation. La contemplation regarde le bien, et c'est le bien qui permet de connaître la justice. Et alors la justice, elle est au niveau politique et au niveau éthique. C'est la justice qui fait le lien, les grandes lettres et les petites lettres. C'est très très beau de voir ça. La contemplation du bien et la justice fait le lien du politique et de l'éthique. Et c'est l'éthique qui est portée par la politique. L'éthique individuelle est portée par la politique. Aristote, lui, mais l'éthique personnelle. On pourrait dire que c'est l'éthique personnelle. Je crois quand même qu'Aristote est le premier qui découvre ce que c'est que la personne. Je crois. Il ne le nomme pas, il n'en parle pas, il ne dit pas le mot personne, ça n'existe pas. Ce sera les stoïciens qui parleront de la personne en premier lieu. Donc le mot personne, mais comme dit saint Thomas avec beaucoup d'intérêt, la réalité y est même si le mot n'y est pas. Quand dit saint Thomas, dit ça, c'est un coup de bambou vis-à-vis de toute la philosophie analytique. La philosophie analytique reste uniquement au niveau de la parole. Ce qui est dit. Et quand saint Thomas dit qu'il faut découvrir au-delà de ce qui est dit la réalité, on peut dire que chez Aristote, on est en face de la première éthique personnelle. Cette éthique personnelle s'ouvre à la contemplation, cette éthique personnelle aboutit à l'amitié, ce qui n'existait pas chez Platon. Et cette éthique personnelle va impliquer le conditionnement de l'éducation. Et ce conditionnement d'éducation exige la politique. Et radicalement. Aristote peut, parce que la politique est enveloppée par l'éthique, il peut fonder la famille. Tandis qu'au contraire, Platon ne peut pas fonder la famille parce que la politique commande l'éthique individuelle. C'est très curieux, ce serait très intéressant de creuser ça. C'est qu'au fond, si vous supprimez la personne, vous n'êtes plus qu'en face d'individu. Vous n'avez plus les personnes. Et je crois ça très fort, ce serait très intéressant à voir, au point de vue philosophie de la famille. La philosophie de la famille permet de maintenir le point de vue d'une éthique personnelle, ce que je crois, dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça qui est important à souligner. Si vous supprimez la famille, vous êtes en face d'une éthique individuelle, au niveau de la justice. Alors, ayez ce petit schéma, c'est intéressant à voir. Et puis, alors, qu'est-ce que nous allons voir ici maintenant, avec Machiavel, là. C'est même pas le grand art, hein, c'est l'habileté florentine. L'habileté, la virtuosité. L'homme politique, c'est un homme habile, par le fait même fuyant, que vous ne pouvez jamais saisir. Donc c'est juste l'inverse de l'éthique, c'est juste l'inverse de l'amitié. Avant Machiavel, Savonarole, en révolte contre le pape, Alexandre VI, hein, faut pas l'oublier, faisait vivre depuis 3 ans Florence dans une dictature cléricale populaire. Parce que c'est juste après Savonarole, c'est pour ça qu'il est intéressant de toujours regarder Machiavel après Savonarole. Donc, les bases étaient l'ascétisme, quelque chose de très spécial, très particulier. La personne de Savonarole, c'est très difficile à bien comprendre. Et ce serait intéressant à regarder. C'est tout à fait à l'ordre du jour, Savonarole d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant à comprendre cela, à saisir que de fait, on est en présence de quelque chose qui suit directement Savonarole. Vous voyez, le 18 juin 1498, Un jeune homme de 29 ans, il y a tout un point de vue littéraire, puisque c'est dans Jean-Jacques Chevalier, n'est-ce pas ? N'oubliez pas Histoire de la pensée politique, je vous ai recommandé ce livre, qui est intéressant, je crois que dans le domaine, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est très littéraire et pas philosophique, ça demanderait d'être repris entièrement au point de vue philosophique, mais c'est intéressant parce que ça vous donne des faits. Le 18 juin 1998, un jeune homme de 29 ans, nommé Nicolas Machiavel, entré dans l'administration de Florence, sa ville natale, 25 jours auparavant, l'étrange aventure mystique de Jérôme Savanarold avait été liquidée dans le sang. Savanarold, moine dominicain, en révolte contre le pape Alexandre VI Borgia, faisait vivre depuis 3 ans la républicaine Florence, délivrée en 1494 des Médicis, sous une dictature cléricale et populaire, mélange de théocratie et de démocratie, dont les bases étaient l'ascétisme et la délation. L'ascétisme et la délation, c'est assez sérieux. 14 années durant. C'est intéressant parce que c'est dans un petit, voyez, c'est la petite cité de Florence. Quand on était à Florence, on voit ce que ça peut être. Savonarole, Machiavel. Pas tout à fait la même chose. On est pour ou contre Savonarole, ça n'a pas d'importance. Mais Savonarole, c'est un personnage. Hein. C'est un personnage, Savonarole. On retrouve toujours ces genres de personnages ecclésiastiques et dominicains ou jésuites. Ça se retrouve tout le temps. Alors vous retrouvez ces personnages-là. Oui, vous retrouverez aujourd'hui, vous pouvez penser à certains dominicains. 14 qui tout à fait sont des Savonarole. Et je crois que dans leur esprit, il y a un tout petit peu de ça. Ils sentent un peu comme Savonarole. Mais alors, ils ne vont pas jusque Savonarole qui a été, lui, brûlé. Ils se mettent un peu à l'écart. En Suisse, où on est en dehors du pays. 14 années durant, Machiavel, chef de la deuxième chancellerie, ainsi que secrétaire du Conseil des 10, qui s'occupe de la guerre et des affaires extérieures, rédige les instructions destinées aux agents diplomatiques de la République. 14 années durant. Diverses missions ou légations en Italie ou à l'étranger, dont 4 en France, lui donnent l'occasion de prouver ses dons hors de pair d'informateur et de négociateur. Il est très, très habile. Connaître. L'habileté incarnée. Intelligent, hein, d'une intelligence fine, mais pas du tout une intelligence métaphysique, hein, pas du tout, mais une intelligence fine, très particulière, artistique, mais artistique dans le sens de l'habileté, le virtuose. Il fait tout ce qu'il veut de son violon, absolument Machiavel, de façon étonnante. Tant de services intelligents et dévoués semblaient garantir à ce fonctionnaire, ce haut fonctionnaire, remarquable, un avancement digne de lui. Mais voici qu'en 1512, les Médicis reprennent le pouvoir. Catastrophe. Ils chassent le secrétaire florentin de sa place et le bannissent. Retiré dans sa modeste maison de campagne de San Casiano et y menant une vie besogneuse. Machiavel médite sur la politique en général et sur le destin de l'Italie en particulier. L'Italie, sa patrie bien-aimée, rongé de divisions intestines, ravagé par les condottieri et leurs troupes mercenaires, roi si tenant, si tentante pour les envahisseurs étrangers. Il confronte ses lectures passionnées des historiens de l'Antiquité avec sa longue expérience des affaires publiques, celle d'un observateur exceptionnellement aigu, aux yeux singulièrement ouverts sur la réalité passablement sombre et sauvage de son temps. Je crois que ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Mais vous voyez, alors, il commence à écrire quand il est justement dans sa maison de campagne. Quand il était en plein exercice, il n'avait pas le temps. Mais il prenait des tas de renseignements. De cette méditation et de cette confrontation, il va tirer deux ouvrages tout à fait différents. Le premier, d'une importance extrême à son sens, et qu'il n'achèvera pas, est intitulé « Discorsi » ou « Discours sur la première décade de Tite-Live ». Évidemment, c'est un livre qu'on ne lit plus. C'est le plus intéressant. C'est toujours comme ça. C'est un livre plus profond. C'est le Machiavel historien, politique, profond. Je vais vous en lire un petit passage qu'il cite là. Le second, qualifié par lui-même d'opuscule, est composé en marge de la préparation du premier. Il y a un chantier, un second chantier. Le chantier sérieux, le chantier où il dit ce qu'il a le plus en son cœur. C'est toujours comme ça qu'il faut manœuvrer. C'est très astucieux. Il y a toujours deux chantiers. Le chantier qu'on montre aux autorités et le chantier qu'on garde pour soi. C'est très habile et c'est comme ça qu'il faut manœuvrer, c'est comme ça qu'il faut faire. On a des chantiers au plan philosophique et puis on a ce qui est propre à nous, qu'on peut dire l'opuscule, le compendium theologiae pour frère Réginald, hein, c'est l'opuscule ça, c'est pas la somme théologique. Tout à fait différent. C'est très curieux, c'est intéressant de voir ça du reste. Et on retrouve ça exactement chez Machiavel. Donc, le premier, c'est le livre sérieux, les discours sur la première décade de Tite-Live. Puis alors, en marge de la préparation du premier, a pour titre exact « De Principatibus » ou « Des Principautés », en bref, « Le Prince ». Le sort voudra que cet opuscule fonde la prodigieuse et équivoque célébrité posthume de son auteur. Machiavel est connu par Le Prince, et non pas du tout par l'autre. Or, c'est très vrai, alors ça offre des tas de discours. Comment se fait-il que le même homme puisse écrire les deux ? Tous les gens honnêtes, les bons historiens honnêtes, se penchent là-dessus, en disant, mais il y a des contradictions entre les deux. Le prince, vous comprenez, c'est la lettre écrite pour pouvoir rentrer par la petite porte. Un des petits conseils qu'on donne. Vous allez voir, le prince, c'est une chose... C'est très curieux, c'est pas philosophique pour un pouce, hein. C'est de l'habileté des conseils, mais c'est intelligent, c'est toujours intelligent, toujours intelligent. C'est l'art avant l'éthique. C'est l'art, l'habileté qui commande l'éthique. Il y a des tas de considérations comme ça, machiavéliques, tout à fait machiavéliques. Alors on voit très très bien, c'est lui. Puis alors l'autre, au contraire, les discours, c'est tout à fait différent. Alors, un mot sur les discours. Alors, la grosse question donc, des historiens, c'est de se dire comment le même homme, c'est très facile à comprendre, parce que c'est Machiavel. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. Et là, c'est ça qui m'amuse beaucoup, de voir ces historiens sérieux qui se demandent comment. Mais c'est Machiavel, justement. Le propre de Machiavel, c'est de pouvoir avoir ces deux discours. Un discours très sérieux, mais très très sérieux, intéressant. Vous allez voir qui dit, en écrivant les discorsi, Machiavel entendait à la faveur de l'histoire de Rome, la Rome républicaine antérieure à l'Empire, guérir les hommes de leur ignorance du véritable esprit de l'histoire. C'est intéressant. L'histoire, elle est née au niveau politique. Et ça, c'est vrai. C'est au niveau politique que l'histoire naît. Parce qu'au niveau politique, l'histoire est quelque chose d'indispensable. Tout homme politique qui veut être un homme politique doit être un historien. C'est au niveau politique. C'est pas au niveau métaphysique. Vous savez ce que dit Aristote au niveau métaphysique, cette chose extraordinaire. Il dit les poètes sont plus proches du niveau métaphysique que les historiens. Et pour Aristote, les poètes intéressent plus le métaphysicien que l'historien. Pourquoi ? L'historien, il est dans les faits contingents. Et le poète, il essaie de saisir un archétype. Donc il est beaucoup plus intéressant pour le philosophe. C'est la cause exemplaire. Tandis que l'historien, pas du tout la cause exemplaire. Il s'aperçoit de plus en plus, l'historien, que c'est des faits contingents, c'est la liberté de l'homme. C'est très très joli de voir. Alors c'est intéressant, voyez, de voir... Parce que c'est là, on saisit bien ce que ça représente. Cet aspect d'historien, très sérieux, qui a un désir, non pas du tout d'éduquer, mais quand même d'éduquer. Éduquer, c'est moral. Et donc, dans les discours, il a un souci moral d'éduquer. Il n'est plus du tout, comme dans Le Prince, l'homme qui fait comprendre la virtuosité. Alors vous avez ces deux aspects qui semblent à première vue complètement contradictoires, qui ne le sont pas quand on comprend que c'est Machiavel. Donc guérir les hommes de leur ignorance du véritable esprit de l'histoire, qui, à l'en croire, les empêchait, en lisant celle-ci, d'en saisir le sens réel et d'en assimiler la vraie substance. N'avait-on pas, en matière de droit ou de médecine, constamment recours aux juristes consuls et aux médecins d'antiquité. L'histoire est indispensable pour l'homme politique. C'est ça qu'il donne dans les discours. Alors, je vous lis ce petit texte qui est bien, bien vu. Et cependant, c'est de lui, donc c'est dans les discours. Et cependant, pour fonder une république, maintenir des états, pour gouverner un royaume, organiser une armée, conduire une guerre, dispenser la justice, accroître son empire. On ne trouve ni prince, ni république, ni capitaine, ni citoyen qui ait recours aux exemples de l'Antiquité. Cette négligence est moins due encore à l'état de faiblesse où nous ont conduit les vices de notre éducation actuelle, où nous a réduit notre religion, qu'aux maux causés par cette paresse orgueilleuse qui règne dans la plupart des États chrétiens, qu'au défaut d'une véritable connaissance de l'histoire. Je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui. Par rapport au chef qui nous gouverne, cette méconnaissance de l'histoire qui fait que instinctivement on retombe toujours dans les mêmes ornières. C'est ça qu'il veut... Ça, c'est intéressant, et ça montre le côté, vous voyez, profond de Machiavel. Il y a un côté profond dans Machiavel, c'est pas du tout... C'est quelqu'un qui jongle admirablement, mais qui sait que pour jongler admirablement, il faut une certaine profondeur. C'est pas la facilité. C'est pas celui qui s'improvise, non, 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 non. Vous voyez, pour pouvoir écrire ce qu'il a écrit, les discours, là, qui sont vus à sa manière. C'est toute une vision d'histoire. La plupart de ceux qui lisent l'histoire s'arrêtent au seul plaisir que leur cause la variété d'événements qu'elle présente. Il ne leur vient pas seulement en pensée d'en imiter les belles actions. Cette imitation leur paraît non seulement difficile, mais même impossible. Comme si le ciel, le soleil, les éléments et les hommes eussent changé d'ordre, de mouvement et de puissance, et fussent différents de ce qu'ils étaient autrefois. Vous voyez là, l'homme qui saisit, il y a des constantes. Donc il découvre l'humain. Découvrir l'humain tel qu'il veut le découvrir dans les discours, c'est un certain souci philosophique. saisir l'homme engagé dans le point de vue politique. Et comme il dit, saisir l'homme engagé dans le point de vue politique, c'est ne pas regarder uniquement la diversité des faits pour le plaisir, hein, pour le plaisir de regarder ces faits, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'homme politique. Donc il y a un souci philosophique qui est présent dans ces discours, où il essaie de comprendre, de saisir ce que représente cet homme politique. Alors, on peut dire que dans ce premier écrit, il y a un souci chez lui de saisir l'homme politique avec tout ce que ça représente, si vous voulez, comme souci de découvrir une certaine finalité. Une certaine finalité, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais c'est quand même un souci, ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Alors, on pourrait dire à partir de là qu'il y a une certaine idée de l'homme chez Machiavel. Si le secrétaire florentin a imprimé une marque si profonde, si indélébile sur la science et l'art du pouvoir, c'est pour avoir proclamé avec tant de force tranquille la séparation radicale de la politique et de la morale courante. L'autonomie du politique est sa priorité. Politique d'abord. Séparation, autonomie, priorité qui ne sont pas moins affirmées dans les discours que dans le prince. Mais les discours participent de la majesté et de la dignité de l'Antiquité romaine. Le décorum verbal y est plus grand. C'est plus sérieux. Voilà, tout simplement. Mais c'est la même chose. Il lit l'Antiquité romaine avant l'Empire. C'est ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est la Res Publica. C'est la République romaine. Et dans cette Res Publica, il essaie de saisir ce que représente l'homme politique. Et il veut saisir que l'homme politique est au-delà de l'homme moral. Je crois que c'est ça son intention de Milan. Alors, notons encore, parce que ça c'est aussi une chose qui est importante, c'est qu'il montre cet homme républicain, il est républicain fondamentalement. Ça c'est sûr, hein, c'est l'homme qui aime la Respublica romaine avec toute sa grandeur. Il montre qu'à certains moments, il est nécessaire qu'il y ait un dictateur. Ça c'est très intéressant aussi à noter. Il n'est pas du tout en opposition vis-à-vis de ça. Il montre qu'il est nécessaire à certains moments, pour sauver la République, qu'il y ait le dictateur. Au fond, la République ne tient pas toute seule. C'est très curieux. Ça aussi, c'est une des choses que les historiens regardent avec inquiétude. Comment se fait-il qu'il accepte qu'il puisse y avoir ça ? Il a emprunté à Polybe la théorie pessimiste du retour éternel, du cercle éternel, selon laquelle les diverses formes de gouvernement se succèdent et se reprennent nécessairement. Seule une constitution mixte peut retarder le déroulement et la succession. C'est là, vous voyez, alors il prend ça à Polybe, mais c'est très ancien, pas ? C'est toute la théorie d'Aristote, c'est que seul le mixte est le gouvernement parfait. Eh bien, vous retrouvez ça chez lui. C'est intéressant de le retrouver à l'intérieur même de la conception. Mais évidemment, dans sa perspective à lui, c'est-à-dire dans une perspective d'efficacité. Parce que mettre le politique avant le moral, c'est le primat d'efficacité. Et quand pour lui, ce qui compte, au point de vue politique, c'est l'efficacité. Alors, par le fait même, on comprend très bien ce qui compte, c'est un gouvernement qui puisse durer. C'est pas du tout le plaidoyer pour le changement, pas du tout. C'est au contraire essayer de comprendre un gouvernement qui tient, parce que c'est le seul efficace. Un gouvernement qui dure, c'est le seul efficace. Pour que ça dure, il faut un gouvernement mixte. Des constitutions mixtes peuvent retarder le déroulement, mais on ne fera que le retarder. Il y aura nécessairement un cycle. C'est là qu'il faut chercher le secret de la République romaine. Car à tout moment dans le monde, il y a une égale masse de bien et de mal. Le progrès est un vain mot. Pas de progrès. Toujours bien et mal dans l'humanité. Il s'agit de l'équilibrer. Oui. Pas de finalité, par le fait même. Hein. L'efficacité et l'équilibre. Ce qu'on voit exactement aujourd'hui dans toute la théorie de tous les économistes. C'est exactement ça. Quand vous identifiez le politique et l'économiste, on peut dire que c'est déjà chez Machiavel. Alors, c'est une espèce d'équilibre, il faut reconnaître ça. Donc, il y a ce sentiment pessimiste vis-à-vis de l'homme. Et c'est vrai, quand on oublie la finalité, on ne peut qu'avoir qu'un sentiment pessimiste de l'homme. Parce qu'on retrouve toujours cette espèce de mutation. La rénovation ne peut se faire que dans un retour au principe. Il dit ça quand même. Le renouveau, la rénovation ne peut se faire que dans un retour au principe. Amour de la liberté républicaine. Contre l'antique haine de la tyrannie. Alors ça, c'est très vrai. Il y a une haine vis-à-vis de la tyrannie. Et il y a un amour de la liberté républicaine. Tout ça, c'est très actuel. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. La haine de la tyrannie. Et cependant, parce qu'il est intelligent, le dictateur est nécessaire pour relever cette espèce de poids dans la liberté républicaine, la quantité du mal va l'emporter sur le bien à certains moments. Alors pour la réforme, il faut un législateur. C'est très curieux. Il reconnaît là le primat de l'homme à certains moments et du législateur unique. Mais le dictateur est nommé pour une période limitée. Il ne faut surtout pas que la dictature s'installe. Donc c'est uniquement une période limitée. C'est pour, si vous voulez, un renouveau qui doit se faire. Alors on revient à la source. Bon. Ceci, c'est pour vous montrer le sérieux de ce qu'on représente. Sérieux, à la manière de Machiavel. Le sérieux machiavélique, si vous voulez. Que représentent les discours. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente essayer de trouver un équilibre entre le bien et le mal. Sans finalité. Il n'y a pas de finalité. L'efficacité. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre son second écrit, qui est sûrement beaucoup plus personnel, et qui nous révèle peut-être ce qu'il y a de tout à fait propre à Machiavel. C'est son livre sur le prince. Alors là, on est devant quelque chose de très spécial. Je vais vous en lire quelques passages, parce que c'est intéressant à voir. Il y aurait toute une série de choses à voir dans ce point de vue-là. Comprendre comment, de fait, on est en présence de quelque chose qui... Pas de principe. Il n'y a aucun principe. Je vous lis le début. Le début est quand même très curieux. Tous les États, toutes les seigneuries qui eurent et ont commandement sur les hommes furent et sont ou républiques ou principautés. Et des principautés, aucune sont héréditaires, desquelles la race du Seigneur a tenu longtemps la domination, les autres sont nouvelles. Et les nouvelles, ou le sont entièrement, comme furent Milan à François Sforza, ou bien sont comme les membres adjoints de l'état héréditaire du prince qui les a conquis. comme est le royaume de Naples ou le roi d'Espagne. De ces domaines ainsi conquis, les uns ont accoutumé de vivre sous un prince, les autres ont gardé l'usage de la liberté. Et ils s'acquièrent, ou par armes d'autrui, ou par ses propres armes, et ce, par fortune et par talent. Vous voyez que c'est intéressant, cet homme qui fait la conciliation avec le prince. C'est contraire à la res publica. Et alors, il veut, parce qu'il veut s'introduire de cette manière-là. Il fait patte blanche. Il va exalter le prince pour être reçu, pour que de fait, on va le réaccepter de nouveau. Alors que je crois que le fond de son âme, c'est res publica. C'est la République romaine, c'est le fond de son âme, c'est la liberté. Mais cependant, il veut quand même à tout prix, c'est plus fort que lui. Celui qui a touché au gouvernement, c'est plus fort que lui. C'est impossible, il faut qu'il revienne, peu importe comment. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, qu'on a dit, parce que ce n'est jamais dit dans Machiavel, la fin justifie les moyens. Ça, c'est pas dans Machiavel, ça. Mais c'est le résumé de Machiavel. Ne citez pas ça comme de Machiavel. Le résumé de Machiavel, c'est ordinairement ce qu'on vit, la politique machiavélique, la fin justifie les moyens. Bon, ça, c'est le résumé. Mais ce n'est pas Machiavel. Machiavel est beaucoup trop intelligent pour dire ça. Beaucoup trop intelligent, beaucoup trop fin. Et c'est un petit peu, vous savez, comme Épicure et ce qu'on appelle l'épicurisme, le point de vue moral épicurien. Alors on tombe dans quelque chose d'un peu grossier, alors qu'Épicure est un être extraordinairement fin dans ses jouissances, puisque la plus grande jouissance, c'est la contemplation. C'est la jouissance. Vous cherchez dans la contemplation la jouissance. La jouissance dans ce qu'elle a de plus spirituel, de plus fin. C'est ça Épicure. Il ne supprime pas du tout la contemplation. Ce serait trop gros, ce serait très grossier. Alors l'épicurisme dit la jouissance immédiatement sensible, mais non, ça c'est le succès d'année. Eh bien c'est un petit peu comme ça, vous voyez, pour Machiavel. On dira, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est pas ça Machiavel, c'est bien plus subtil. C'est l'habileté de la circonstance particulière. C'est l'habileté de la circonstance particulière. Et dans chaque circonstance particulière, il faut découvrir le moyen le plus efficace. Alors, dans le prince, c'est ça qu'il va donner. C'est pour ça que c'est terrible de lire le prince. Parce qu'on voit très bien, tout vous échappe. Cherchez dans le monde. Pas un seul principe. Surtout pas. Je crois qu'on pourrait dire, vous voyez, que le prince, ce serait cette habileté de celui qui... Ce n'est pas le décorateur, mais c'est celui qui reprend les vieux tableaux et qui les remet à neuf. C'est une habileté très particulière quand vous fréquentez ce genre d'artistes. C'est des artistes au niveau second. Ce n'est pas du tout l'artiste qui crée, c'est l'artiste qui remet à neuf quelque chose d'ancien. C'est ça le prince. Moi, ça me donne toujours cette impression-là quand je lis le prince. C'est quelqu'un qui essaie de redonner une espèce de nouvelle jeunesse à un vieux visage. C'est très habile. C'est l'habileté qui domine. Tandis que quand vous dites « la fin justifie les moyens », ce n'est plus l'habileté, ça. Pas habile de dire ça. Mais c'est comme Platon quand il dit « le prince peut mentir ». Mais c'est pas habile du tout de dire ça. Dès que vous dites que le prince peut mentir, ça va plus du tout. Plus personne ne va vous croire. Donc il faut faire croire que le prince ne ment jamais. Et qu'il a au contraire pour le bien de tous les autres. Et il ne faut jamais affirmer que la fin justifie les moyens. Ça c'est supprimer toute l'efficacité. Il faut être uniquement au niveau des moyens et faire surgir à chaque moment le moyen qui apparaît comme le plus nécessaire qui soit. Et vous montrez ça comme le point de vue immédiat. Mais il y a un positivisme beaucoup plus fort chez Machiavel. Et ce positivisme, il est à l'intérieur même de cette habileté. Alors, je prends quelques passages, si vous voulez, parce qu'on pourrait... À chaque page, on trouve des choses qui sont énormes. Alors, je vais vous en lire quelques-uns simplement pour que vous puissiez saisir la perspective très particulière. C'est de ceux qui, par scélératesse, sont parvenus à la principauté. C'est quand même intéressant. On pourrait s'interroger d'où procéder qu'Agathocle et autres semblables, après d'infinies trahisons et cruautés, purent vivre longtemps en sûreté dans leur pays et se défendre des ennemis extérieurs sans que leurs concitoyens conspirassent contre eux, vu que plusieurs autres n'ont jamais pu se maintenir en leur état même en temps de paix, sans parler du temps troublé de la guerre. Hein ? Voilà la question qui est très très jolie, c'est une question digne de l'Ecclésiaste, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que des scélérats durent ? Tito. C'est vrai. J'ai connu quelqu'un dont les oncles ont été tués par Tito d'une façon remarquable. On a disparu, personne n'a su comment ça avait disparu. Et cet homme, comme il était dans la diplomatie, a été invité à l'enterrement de Tito. Et il a assisté à l'enterrement de Tito. Je l'ai vu quand il est revenu. Ça a duré 3 jours. Hein. Une liturgie d'enterrement de Tito, ça doit durer 3 jours. Il m'a dit, c'était extraordinaire. Lui, dont les oncles avaient été tués par Tito. Voilà. Il y avait que des sièges pour les représentants de la Russie. Tous les autres étaient par terre sur la tribune. Et l'envoyé de l'Amérique était par terre. Assis par terre. Et seule la Russie sur les sièges. C'est extraordinaire comme liturgie. Hein. Vous voyez ça? C'est le trône, évidemment, ça reste le trône liturgique. Et les autres par terre. Enfin, par les autres. Et puis, ça durait. Toutes les épouses de Tito, vous savez, il y en avait plusieurs, hein, la fameuse qui a trahi, qui devait pleurer, manifester sa douleur, son chagrin. On retrouvait toutes les pleureuses de l'Antiquité, n'est-ce pas, qui étaient là, qui étaient présentes. Et c'était les épouses qui pleuraient, et devant tout le monde, et tout le monde devant. Ils étaient extraordinaires, on n'aurait pas cru qu'on était au XXe siècle, on serait reporté devant quelque chose. On aurait dit que c'était un théâtre grec qu'on refaisait, ça aurait été tout à fait normal. Mais on vivait ça. C'est très curieux. Et c'est intéressant parce qu'on voit très bien ce qu'il veut dire quand il dit ce point de vue-là, qu'ils purent vivre longtemps en sécurité dans leur pays et se défendre des ennemis extérieurs sans que leurs concitoyens conspirassent contre eux. Empêcher que devant le tyran, on tire contre le tyran. Je crois que cela vient de la cruauté bien ou mal employée. C'est extraordinaire. Quel est le secret de ces tyrans ? C'est la cruauté. Ah, c'est très bon la cruauté, mais il faut bien la manier. Oui. Ce n'est plus, la vertu ne se définit plus par le point de vue de l'objet, elle se définit par la manière dont on emploie ces choses-là. Faire le bien, il y a un passage, je ne sais pas si vous retrouverez, mais un passage étonnant sur la question de la bienfaisance. C'est très dangereux la bienfaisance. Parce que vous donnez, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus rien. Et les gens continueront de réclamer. Et à ce moment-là, vous ne pourrez plus rien donner. Alors les gens se retourneront contre vous. Et donc, c'est une imbécilité la bienfaisance. Il faut être cruel. Alors si vous êtes cruel, vous maintenez une puissance, une possibilité. Vous voyez, c'est très curieux, parce que c'est l'antithèse démoniaque de ce que la petite Thérèse dit à propos de la petite voix. C'est l'antithèse démoniaque, exactement. C'est-à-dire, c'est l'habileté à l'égard de l'exercice. Mais quand vous dites que les dons du Saint-Esprit ne regardent pas le point de vue de l'objet, mais la manière dont on exerce la chose, une modalité divine, eh bien là, c'est juste l'inverse. Et c'est en ce sens-là que c'est l'habileté qui a pris complètement possession de ce que représente la vertu. La vertu, elle a un objet, elle a une finalité. Alors que l'habileté regarde l'exercice, la manière dont on va se servir de ça. On peut être cruel d'une façon bonne et d'une façon mauvaise. Hein. Ça n'a pas encore inventé ça. Hein. Ça, c'est assez beau. Je crois, et quand il dit je crois, il en est sûr, hein. Je crois que cela vient de la cruauté bien ou mal employée. Donc, il y a une manière de bien employer la cruauté. Et qu'est-ce que c'est que cette manière de bien employer la cruauté? C'est d'être habile en étant cruel. C'est-à-dire de doser exactement les réactions des gens par rapport à ça. Et c'est tout le temps comme ça. À travers toutes les vertus, il passe. Hein, et toutes les vertus sont reprises par ce mode, bien ou mal, du mode d'emploi. Alors quand je dis les dons du Saint-Esprit ne regardent que l'exercice sans regarder l'objet, c'est une manière de faire. Vous savez, quand saint Thomas parle de l'obéissance de l'enfant à la différence de l'obéissance du serviteur. Le serviteur, on lui demande d'accomplir une tâche. À un enfant, on ne demande pas d'accomplir une tâche. On lui demande une manière particulière de vivre. C'est une manière particulière de vivre. Eh bien, c'est ça. C'est la manière particulière de vivre. Le mode d'emploi, c'est l'habileté. On peut appeler bonne cette cruauté, si l'on peut dire, y avoir du bien au mal, laquelle s'exerce seulement une fois, par nécessité de sa sûreté, et puis ne se continue point, mais se convertit en profit des sujets le plus qu'on peut. La mauvaise est celle du commencement, encore qu'elle soit bien petite, croît avec le temps plutôt qu'elle ne s'abaisse. Ceux qui useront de la première sorte de cruauté peuvent, avec l'aide de Dieu et des hommes, trouver quelques remèdes favorables.